Vous êtes sur RTL.
18h. Place à l'info tout de suite, RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Marseille en grand, Emmanuel Macron s'apprête de manière imminente à dévoiler son plan pour soigner la ville avec sans doute un chèque de plusieurs centaines de millions d'euros et des priorités qui sont déjà fixées. Sécurité, école, transport, nous allons détailler ces annonces et évidemment les questionner. Vous l'aurez compris, la campagne présidentielle débute peut-être aussi en ce moment au-dessus du Vieux-Port. Depuis Marseille, Jean-Luc Mélenchon, député de la ville et leader des Insoumis, sera notre invité dans un quart d'heure. Et puis nous allons également débattre autour de ce plan XXL qui est attendu d'une seconde à l'autre dès 19h15 autour d'Éric Brunet dans On refait le monde. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous et à la une des sourires.
C'était trop bien. J'aime bien la rentrée parce qu'on ne travaille pas beaucoup. On fait les cahiers pour l'année, quoi. C'est trop bien, moi j'aime bien.
On retrouve les copines, les copains.
Ouais, j'adore retrouver les amis, c'est trop bien. Même moi j'aime bien l'école.
Reprise en douceur, premier jour d'école, retrouvailles comme Lison. 12 millions d'enfants ont découvert leur classe, leurs camarades et leurs enseignants aujourd'hui. Et en ce jour de retour en cours, question sur l'allocation de rentrée scolaire. Sert-elle oui ou non à acheter des écrans plats plutôt que des fournitures, comme l'a dit le ministre de l'Éducation? Ni naïveté, ni stigmatisation, dit Emmanuel Macron. RTL a cherché à en savoir plus. Et puis, une ville meurtrie après le passage de la tempête Ida. Au moins 14 morts à New York et dans sa région après les inondations d'hier. Les courses pour le Quintet Plus dans une vingtaine de minutes à Longchamp. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 14, le 6, le 2, le 13, le 12, le 3 et le 4.
Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, toute la semaine, ils racontent leur 13 novembre des documents RTL saisissants. Ce soir, un expert de la police scientifique hantée par les fantômes du Bataclan. À 18h40, on défait le monde. 20 minutes d'actu avec un autre regard avec vous, Cyprien Signy et toute la bande. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Quel est le programme ?
Témoignage exceptionnel ce soir. Un Afghan vous racontera la réalité du périple de 5000 km qu'il a effectué pour rallier l'Europe. Les passeurs, la fatigue, les balles. 5 mois et demi d'angoisse à découvrir dans 40 minutes. Et de façon plus légère, vous découvrez aussi que le bonnet d'âne, eh ben c'est bon, c'est pour les bons élèves.
Ah, très bien. Et autre oui, rendez-vous tout à l'heure, 19h dans le journal, vous découvrirez les tout premiers extraits du nouvel album d'Abba, après 40 ans de séparation. Et puis tout au long de l'émission, évidemment, des points réguliers sur le temps avec vous, Peggy Broche, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance ?
Plein soleil au nord de la Loire, et chargé, pluvieux et orageux au sud.
On vous retrouve dès la fin du journal, à tout de suite.
RTL Soir.
L'estrade domine le Vieux-Port. C'est du palais du Pharo qui surplombe Marseille qu'Emmanuel Macron va s'exprimer d'ici quelques minutes.
Pour présenter son plan pour la ville, sur l'éducation, le logement, les transports, la sécurité. Bonsoir William Galibert.
Bonsoir.
Vous avez suivi le chef de l'État tout au long de la journée, dans une école d'abord, puis à l'hôpital de la Timone, des déambulations qui lui ont fait prendre un peu de retard. Il devait au départ s'exprimer à 16h45.
Et il est 18h03, donc pour le détail du plan, eh bien il va falloir attendre. Mais d'ores et déjà, Emmanuel Macron a fait passer un message, William. Les élus locaux vont devoir se retrousser les manches.
Oui, c'est ça Julien. Et Marion a résumé le programme. Je vais ajouter que l'école était délabrée, que l'hôpital La Timone n'est pas non plus dans un état brillant, et qu'hier le président était dans un quartier miné par les trafics et la pauvreté. Eh bien, tout ça, pour Emmanuel Macron, c'est une faute collective. C'est le résultat des divisions politiques, des mauvaises gestions qui ont englouti les milliards d'euros, des plans d'urgence successifs sans qu'on en voie les résultats. En clair, oui, effectivement, c'est une pression maximale mise sur les élus.
D'abord, je ne sais pas si ça marchera. Je vous le dis en toute humilité. Il y a ensuite ici une concentration de difficultés qui est inédite. Et il y a ensuite une division qui est inédite. Et il y a des habitudes qui se sont prises qui aggravent les problèmes. Et donc, ce ne sont pas les milliards qui comptent. Je vous le dis très sincèrement.
Faites confiance à Marseille, c'est ce que dit en ce moment Benoît Payan, le maire, qui s'exprime avant la prise de parole du chef de l'État. William, est-ce qu'on a quand même une idée des sommes que l'État va débloquer pour la ville ?
Oui, ce ne sont pas les milliards qui comptent, mais on les attend quand même, ces milliards. 150 millions d'euros pour la police marseillaise, ça c'est déjà certain, avec 200 fonctionnaires en plus l'an prochain. La mairie espère aussi une aide au moins de 600 millions d'euros, peut-être plus pour retaper les écoles et peut-être autant pour les transports. Le maire Benoît Payan vient de dire qu'il fallait, je cite, « enfin surmonter la méfiance réciproque entre Paris et Marseille ». On attend donc maintenant la réponse du président et donc aussi la taille du chèque, le chef de l'État qui va monter sur l'estrade dans quelques minutes maintenant, pour ce qui ressemble aussi fortement à un meeting de pré-campagne présidentielle.
William Galibert du service politique de RTL qui suivra donc ce discours politique à Marseille.
Et bien entendu, on y reviendra avec l'un des opposants d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, député de Marseille, qui nous attend depuis la seconde ville de France, la deuxième ville de France. Il sera notre invité dans 10 minutes maintenant sur RTL.
Emmanuel Macron qui cet après-midi est revenu aussi sur la polémique créée par son ministre de l'Éducation sur l'allocation de rentrée scolaire, utilisé parfois selon lui pour acheter des écrans plats plutôt que des livres ou des cahiers.
Nous serions ou aveugles ou naïfs de penser que la totalité de ce que chaque ménage touche en allocation de rentrée scolaire est reversée pour acheter les fournitures ou les livres des enfants. C'est pas vrai. Et nous tous, nous le savons. On construit bien les choses quand on se base sur un constat lucide et véridique. Après, il ne faut pas qu'on rentre dans un système de contrôle social où il y aurait une forme de défiance qui s'instaure à l'égard des familles. Il y a comme partout des gens qui font les choses comme il faut. Mais que nos parlementaires s'intéressent à ce sujet et disent « on va essayer de s'assurer que l'argent du contribuable va bien au bon endroit », je pense que c'est de salubrité publique.
Et parmi ces parlementaires, une députée Modem qui propose de verser l'allocation de rentrée sous forme de bons d'achat pour flécher les dépenses.
Et donc, c'est le moment où je me tourne vers vous, Pierre Herbulot, bonsoir.
Bonsoir.
Dans l'équipe de RTL Soir, on s'interrogeait, donc on a tenu à ce que vous puissiez creuser cette question. Écran plat plutôt que fourniture scolaire, est-ce que c'est une réalité?
Non, on est plutôt dans le fantasme. La CAF a mené une étude sur l'utilisation de l'ARS, l'allocation de rentrée scolaire, face à la récurrence de ce genre de polémique. Alors, ça date de 2013, mais la télé existait déjà, et même en couleur. Résultat de l'enquête, 95% des bénéficiaires disent utiliser l'ARS pour acheter des fournitures scolaires. 88% d'entre eux pour renouveler les vêtements des enfants. Suivent l'assurance, la cantine, l'inscription au sport et le mobilier de bureau pour enfants. Bref, on est loin des écrans plats. D'ailleurs, contrairement à ce que dit Jean-Michel Blanquer, septembre est même l'un des pires mois de l'année pour les vendeurs de télé. Pour rappel, l'ARS est versée sous condition de ressources à 3 millions de familles chaque année en France. Son montant varie selon l'âge des enfants, entre 370 et 404 euros. Enfin, je vous donne une donnée pour prendre un peu de recul sur toute cette histoire. Le coût de la rentrée scolaire représente environ 80% d'un SMIC et même près de 140% pour une famille avec 3 enfants.
Les explications de Pierre Herbulot du service économie de RTL. L'école et la rentrée, on va continuer à en parler dans un instant avec cette famille franco-afghane bloquée à Kaboul. On vous en parlait dès hier sur RTL, avec l'espoir aujourd'hui pour le plus grand des 3 enfants de suivre ses cours à distance. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h09, bonne fin de journée. Vous écoutez RTL, la suite de votre journal. Marion Calais avec cette famille, toujours dans l'attente, dans l'angoisse.
Oui, on va raconter ici même hier soir l'histoire de Chapour, ce restaurateur franco-afghan bloqué à Kaboul avec sa femme et ses enfants, près de 7000 kilomètres les séparent de l'Hexagone et de leur ville de Lyon, où les enfants auraient dû aujourd'hui retrouver leur école.
Alors Valentin Boisset, vous avez pu parler au plus grand de ses enfants, il est âgé de 8 ans, un petit garçon qui espère malgré tout pouvoir garder le contact avec sa classe.
Oui, effectivement, Soufiane n'était pas aujourd'hui sur les bancs de sa classe de CM1, mais dans la chambre de son oncle afghan à Kaboul. Alors selon son père Chapour, il a fait une petite crise d'angoisse lundi soir, loin de ses copains, donc il a fallu le calmer.
Ça va, on est coincé en Afghanistan.
Ton papa me disait que t'avais un petit peu pleuré.
Oui, parce que l'école, aujourd'hui, il a commencé.
Est-ce qu'il a eu des nouvelles un petit peu de l'école, justement?
Ah ouais. J'ai des maîtrises qui nous ont envoyé de temps en temps des messages.
Une maîtresse qui essaye donc de le rassurer par SMS. Elle donne à Soufiane des informations pratiques. Pour le moment, pas d'exercice à distance, mais c'est un projet. En attendant, l'écolier tient à en faire de lui-même.
Il travaille sur la tablette et tout ça, il fait des peintures et tout ça, les enfants. Pas envie de rien faire, quoi. J'espère que dans le jour qui vient, on va commencer les vols. Ça prend beaucoup de temps.
Chapour et sa famille ne sortent plus dans les rues par peur d'être en danger en tant qu'occidentaux. Leurs 5 passeports français sont pourtant sur la table du salon, prêts car les talibans auraient annoncé à la télévision une réouverture dans les prochains jours de l'aéroport.
Valentin Boisset pour RTL. Des images qui se répètent de la Chine cet été à New York la nuit dernière. Rues inondées, stations de métro submergées, ou l'illustration de l'inadaptation de nos villes au phénomène climatique extrême. 5 fois plus nombreux ces 50 dernières années. À New York hier, les intempéries liées à la tempête Ida ont été brutales et soudaines. Le dernier bilan dans la ville et sa région fait état de 14 victimes.
Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL sur place. Des inondations, et ça c'est surprenant, qui n'avaient fait l'objet d'aucune alerte.
Non, aucune alerte préventive. On savait qu'il allait pleuvoir, mais pas plus. Et c'est vers 23h que les New-Yorkais ont reçu sur leur téléphone une alerte inondation d'urgence, ce qui signifie qu'il y a un danger de mort immédiat. Mais la situation était déjà critique. C'est la première fois d'ailleurs que cette alerte d'urgence est déclenchée à New York, qui déplore 8 morts, tous habités en sous-sol ou au rez-de-chaussée, 5 morts dans le New Jersey voisin. Les 5 personnes étaient dans le même appartement. Une personne a été également retrouvée morte dans sa voiture. Ce matin, le trafic reprend dans le métro et dans les gares, comme à Penn Station ou Irving, comme de nombreux New-Yorkais n'ont pas tout de suite pris conscience de l'ampleur de la catastrophe. On l'a vu arriver loin, dit-il. Je suis né à New York et j'habite en Caroline du Nord. Des tempêtes, j'en ai vécu, mais je n'avais pas réalisé que ça allait être aussi grave. Et le bilan est potentiellement évolutif. Dans le New Jersey, des images aériennes montrent des quartiers entiers engloutis par les eaux. Les secouristes accèdent aux maisons par bateau et toutes les habitations n'ont pas encore été inspectées.
Merci Lionel Gendron à New York pour RTL. Au total, Ida aura donc fait plus d'une vingtaine de morts aux États-Unis. Joe Biden se rendra demain en Louisiane. Après le match nul d'hier contre la Bosnie-Herzégovine, des examens médicaux aujourd'hui pour Kylian Mbappé, semble-t-il gêné au mollet. Prochain rendez-vous pour les Bleus, ce sera samedi sur RTL et sur M6, 20h45 contre l'Ukraine.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Ah. Bon, alors je ne sais pas comment on dit, ils sont de retour en suédois. Ils se sont Agneta, Annifrid, Benny et Björn du groupe mythique de la disco ABBA. Ils doivent dévaler ce soir 2 nouvelles chansons. Leur première hein, depuis 39 ans et leur séparation. On ne se lasse pas des anciennes.
Non, on ne se lasse pas des anciennes, mais on a surtout hâte...
De découvrir les nouvelles,
ce sera dans le journal de 19h, tout à l'heure, bien entendu, c'est un événement planétaire, on peut le dire, Marion et Peggy.
On va tous se lever et danser.
On a tous dansé sur ABBA, évidemment. Clair. Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps maintenant, Peggy, dites-nous tout.
Ah bah écoutez, ce sera beau au nord, comme aujourd'hui, après dissipation de quelques grisailles matinales sur les côtes de la Manche, et puis un temps beaucoup plus mitigé au sud, avec une zone tampon entre le Poitou et la Bourgogne-Franche-Comté. Le ciel sera voilé le matin, quelques nuages l'après-midi avec quelques averses, et plus au sud encore, un ciel bien chargé dès le matin avec des averses et des orages l'après-midi, surtout entre l'Aquitaine et les Alpes. Les températures, elles seront en hausse au nord, en légère baisse au sud sous les nuages, 20 degrés à Cherbourg, 23 à Lyon, Limoges et Montélimar, 25 à Toulouse, 26 à Reims, au Mans, à Paris, à Nancy, 27 à Nice et jusqu'à 29 degrés à Ajaccio.
Merci beaucoup Peggy, et à tout à l'heure. Une courte pause dans RTL Soir et ensuite on va continuer de détailler, de questionner le plan d'Emmanuel Macron pour Marseille. Marseille en grand, le président de la République vient enfin de monter sur l'estrade qui domine le vieux port. L'urgence est d'accélérer, dit-il. Il n'est jamais trop tard. On attend maintenant le montant du chèque, les priorités, et on va se demander si tout ça est à la hauteur. Jean-Luc Mélenchon, député de la ville, sera notre invité dans un instant. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h17, vous écoutez RTL et bien entendu l'actualité ce soir, elle se déroule évidemment à Marseille parce qu'Emmanuel Macron est en train de dévoiler en ce moment son plan pour soigner la ville. On en est aux propos préliminaires, on attend le montant du chèque et les priorités.
Beaucoup de gens me disent pourquoi maintenant. L'urgence aujourd'hui est d'accélérer. Beaucoup de choses que nous faisions avancer, mais parfois à un rythme qui était, si je puis dire, celui des affaires courantes ou des affaires normales.
Alors Emmanuel Macron, bien entendu, va détailler ses annonces. On va y revenir tout au long de cette émission. Et puis on va s'interroger tout au long de cette émission. Est-ce que ce plan sera suffisant? Est-ce que aussi les bains de foule du président ont quelque part marqué ces dernières heures le point de départ de la campagne présidentielle? On va échanger avec notre invité. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon.
Bonsoir.
Vous êtes le président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée, candidat déclaré à la présidentielle. Vous êtes surtout député de Marseille et vous êtes sur place à Marseille ce soir. Oui. On attend donc le montant de l'enveloppe d'Emmanuel Macron qui a un petit peu, voire même beaucoup de retard sur l'estrade au-dessus du Vieux-Port. On attend aussi les priorités, mais on sait d'ores et déjà quels seront les grands axes de ce plan. École, sécurité, 12 morts par balle en 2 mois, on le rappelle, transport. Vous craignez un plan, je crois, pas assez concret. C'est ce que vous avez dit hier.
Non, je vais pas tourner autour du pot. Il est en campagne électorale et il est venu à Marseille. Mais un signal qui ne concerne pas, à mon avis, les Marseillais. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. Mais il dit au reste du pays, je m'intéresse à tout. Bon. Et alors, du coup, plus personne ne se demande comment il se fait que c'est un président de la République qui, tout d'un coup, remplace le maire, le président de région, le président du conseil départemental. C'est lui qui décide ce que vont être les transports, les écoles, etc. Un côté moi qui m'insupporte, il y a peut-être des gens qui adorent ça, qui est monarchique et surtout qui est, il faut bien comprendre la mentalité des Marseillais, qui est exaspérant, parce que M. Macron est déjà venu une fois proposer un grand plan. À l'époque, il était ministre de M. Valls. Et le plan n'a donné rien du tout, puisqu'il devait réhabiliter les quartiers. Et dans le quartier auquel je pense, on continue à avoir de l'eau jaune au robinet. Avant ça, il y avait eu M. Jean-Marc Ayrault, qui était venu lui aussi avec 3 milliards. On n'en a pas vu la couleur. Avant ça, on avait eu une lettre de M. Sarkozy. Alors, tout le monde est plein de bonnes intentions, mais à la fin, les gens à Marseille voient que ça change rien à leur vie. Et que cependant, on a parlé d'eux, on a mis en scène leur misère, on a mis en scène leurs difficultés, et rien ne change. Il y a donc ici, si vous voulez, beaucoup d'exaspération à l'égard des engagements de l'État. Au demeurant, quand il dit, à l'instant, vous venez de passer un extrait que je trouve significatif, il dit, on ne pouvait pas rester dans le rythme habituel. Ah bon, pourquoi? Parce que dorénavant, les plans et les projets ne seront plus soumis aux appels d'offres, ne seront plus soumis aux règlements européens. Hier, ils ont commencé, comme j'ai posé la question, un petit peu à virer leur cutie et à dire, ça ne se fera pas tout de suite. Ok, on a compris. Alors après, vous dites que vous attendez le chiffre, moi aussi, mais je vais vous dire d'avance, chers auditeurs de RTL, ça ne voudra rien dire. Parce que depuis 2 jours, ils nous régalent déjà de toutes sortes de choses qui sont, pardon de le dire, mais retransmises sans aucune nuance ni esprit critique. Tout à l'heure, il était à l'hôpital, la Timone, ça, très grand hôpital marseillais, très célèbre. Bon, il leur a promis une somme d'argent. Bon, c'était déjà celle qui était promise au Ségur. Ensuite, il leur a promis une remise de dette. Ben, c'était déjà celle qu'avait dit Madame Buzyn. Mmh. Hier, il parlait de sécurité. Il a repromis les mêmes policiers que Monsieur Darmanin avait promis. Donc, si, les gens de Marseille, ils le savent, tout ça. Alors, vous autres, bon, vous êtes à l'extérieur, c'est normal. Vous avez vos propres problèmes. Vous habitez, je sais pas où, à Toulouse, Lyon. Alors, vous êtes pas au courant. Et donc, vous vous laissez berner. Et là, il est en train de berner tout le monde.
Alors, justement, parlons.
En plus, je vais vous dire, moi, ça me fait rigoler parce que ça ressemble à une tournée d'adieu. Il est en train de ressortir tous les grands airs de Ayrault et des autres premiers ministres.
Mais parlons de l'exaspération.
Je suis plus que sceptique.
Des Marseillais, Jean-Luc Mélenchon, parce que vous êtes député de la ville, vous étiez aujourd'hui à l'occasion de la rentrée scolaire dans une école de votre circonscription. Oui. On a beaucoup parlé ces derniers jours de l'état des écoles. 170 établissements prioritaires pour être rénovés, établissements scolaires à Marseille. École, transport, sécurité, ce sont sur ces sujets-là que les Marseillais vous interpellent, vous ont interpellé aujourd'hui.
Mais évidemment, comme vous-même, comme tout le monde, on est là, on fait notre vie comme on peut, on tâche de prendre notre petite part de bonheur. Quels sont les problèmes qu'on a tous les jours? Est-ce que nos enfants sont correctement accueillis à l'école? Qu'est-ce qu'ils ont un futur s'ils travaillent sérieusement? Pour ça, il faut qu'ils puissent le faire. Vous avez parlé de ma visite dans une école. Figurez-vous que c'est l'école miraculeuse. Elle a été entièrement reconstruite. Incroyable. Mais écoutez bien les gens. Les gens qui faisaient cette école ont attendu 17 ans dans les baraquements. Ça vous dit quelque chose? Pendant 17 ans, vous avez des gosses qui ont démarré leur scolarité dans des baraquements. Et il a fallu que les gens se fâchent pour que les gosses qui étaient dans les baraquements aillent dans la nouvelle école, parce que sinon elle était réservée pour un beau quartier qui vient d'être construit. Et tout est comme ça. Écoutez, en France, où que vous alliez, le maire est de droite, le maire est de gauche, ça change rien, il s'occupe des gosses. Bah, faut le dire, honnêtement. Les maires s'occupent d'abord des écoles. Vous venez à Marseille, l'école publique a été dédaignée pendant des décennies, au profit sans doute de l'enseignement privé, mais regardez, je suis allé dans une école, elle s'appelait Saint-Louis-de-Rouvre. Bon, le Rouvre. Eh bien, il y avait 200 gamins dans la maternelle. 200 enfants. Ça s'appelle une usine, pas une maternelle. Il y avait pas de préau dans la cour de l'école et 12 pipis pour les gosses. Donc ça, ça n'existe qu'à Marseille. Alors c'est vrai qu'on a une situation exceptionnelle de dénuement. Mmh. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec les nerfs des gens. Il ne faut pas leur promettre des choses qu'on ne leur donnera pas.
600 millions d'euros, parce que c'est la somme réclamée par la mairie. On va voir si Emmanuel Macron signe le chèque. 600 millions d'euros pour rénover les écoles marseillaises. Pour vous, ce n'est pas un progrès, Jean-Luc Mélenchon?
Ah ben, si les 600 millions sont pris en charge par l'État, bien sûr que c'en est un. C'est toujours bon à prendre. Moi, je comprends. Vous avez entendu à l'instant le maire de Marseille. Bon, il est socialiste. Et puis, c'est un brave homme. Et il est là, bon, il a bien, bien ciré les chaussures du président de la République. Je veux dire, c'est normal, les élus locaux, ils sont dans une telle situation d'asphyxie que l'argent qu'on leur propose, ils le prennent. Mais moi, je ne suis pas tenu aux mêmes, comment dire, aux mêmes égards de langage. Je suis député, élu par une partie de la population de Marseille, comme député national. Donc, j'ai ma totale liberté de parole. Eh bien, je vous dis que je ne crois pas ce qu'il dit, le président de la République. Je ne le crois pas. Et hélas, mais franchement, vous êtes quand même un esprit critique, vous êtes un commentateur politique, quelqu'un qui arrive 8 mois avant une élection et qui vous promet des sommes d'argent dont tout le monde sait que le premier euro ne pourra pas être dépensé. Je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, président, quelle garantie vous nous donnez?
Alors il m'a dit. On vous a vu discuter, on n'a pas pu lire sous vos lèvres, il y avait des masques, mais on vous a vu discuter hier à la mairie.
Oui, 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 oui.
Vous nous dites que la ficelle marseillaise est un peu grosse à 8 mois de la présidentielle. Est-ce que vous lui avez dit la même chose au président de la République?
Attendez, hier c'était l'accueil républicain. Donc, vous savez, il y a une courtoisie, on n'est pas en guerre civile quand même, il ne faut pas exagérer, donc moi je suis un opposant. Dites voir au passage, j'en profite pour vous dire que je me sens un peu le seul opposant, parce qu'alors là, c'est un concert de louanges universel, et les dirigeants nationaux des différents partis sont tous inscrits aux abonnés absents, perdit rien. Alors évidemment, M. Macron a tout le droit de penser qu'il peut raconter ce qu'il veut, il n'y a plus que moi comme opposant dans ce pays, c'est quand même incroyable. Alors hier, je lui ai d'abord dit des mots de civilité, bonjour, comment ça va, baissez pas votre masque, vous allez attraper la Covid. Là, vous savez que je suis taquin. Et après, ce que je lui ai dit, je ne vous le dirai pas. Mais enfin, bon, je suis un peu trahi par mes mains, mes doigts. C'est vrai que c'était un peu animé, mais c'est normal, on l'accueillait. Mais après, non, ne me demandez pas, en plus de la courtoisie républicaine, de faire semblant de croire à ses boniments, parce que là, c'est trop, quoi. Il est en campagne électorale. Moi aussi, hein. Mais je m'en cache pas. Alors lui, il ne faut pas qu'il fasse semblant de s'intéresser à Marseille. Bon, il s'y intéresse comme tout le monde. Mais non, n'exagérons pas, quoi. C'est une campagne électorale et il est en train un peu de se moquer de nous, quoi.
Alors,
voilà.
Évoquons justement cette campagne, Jean-Luc Mélenchon. On sait que vous vous êtes lancé tôt, effectivement. Vous assumez depuis la fin de l'année dernière. Alors vous n'êtes pas seul à gauche. Primaire des Verts la semaine prochaine. Arnaud Montebourg, Anne Hidalgo dans les starting blocks. Fabien Roussel au PCF qui est lancé, qui ce matin était l'invité d'Alba Ventura sur RTL. D'ailleurs, il a refusé de parler de vous. Je ne parle pas des autres, dit-il. Jean-Luc Mélenchon, il y a quand même des auditeurs de gauche qui doivent se dire, en vous écoutant, en nous écoutant, mais pourquoi une telle désunion? Parce que mathématiquement, ça devient quand même compliqué d'atteindre un second tour.
Alors, vous avez raison de dire que la dispersion peut nous nuire, hein, c'est vrai. On n'est pas les seuls dans ce cas-là, parce que la droite est également à plusieurs candidats, et l'extrême droite aussi. Alors, de grâce, ne réservons pas à cette partie de la sphère politique pourquoi pourquoi il y a ces différents. Ben parce qu'on n'est pas d'accord. Il faut accepter de vivre en démocratie, c'est les électeurs qui décident. Faire semblant tout d'un coup de sauter au cou des socialistes, alors que par exemple, eux et moi, on n'est pas d'accord sur la retraite à 60 ans. Je ne vais pas faire semblant de sauter au cou des Verts, que je respecte dans leurs convictions, mais il y a des différences entre nous, notamment sur l'Europe. Ceux qui vont aller voter à la primaire des Verts, il faut d'abord qu'ils signent un papier dans lequel ils disent qu'ils sont pour l'Europe fédérale. Je ne sais pas qui va aller dire « Moi, oui, je suis pour l'Europe fédérale. Comment ça va marcher? Quelle est la place de la France ?» J'en sais rien. Je suis juste pour l'Europe fédérale. Donc, je pense que la campagne va se dérouler pour une fois, peut-être parce que nous sommes nombreux, il y aura une campagne sur les programmes. C'est-à-dire que comme personne ne pourra s'auto-attribuer une étiquette, « Ah ben moi, je suis la gauche, l'autre, ah moi, je suis la droite, l'autre, je suis l'extrême droite. » Eh ben les gens diront « Mais qu'est-ce qu'ils proposent, ces gens ?» Nous, on voudrait avoir une campagne où on arrête de voter par détestation, qu'on arrive à voter des solutions. J'espère faire ça. Après, je prends la vie comme elle vient, monsieur, comme vous. Hein.
Et alors, parlons-en de la campagne, parce que c'est vrai que Fabien Roussel, justement, disait ce matin... Il faut, sur RTL, il faut faire exister les idées de gauche. Et il dit aujourd'hui, la gauche est devenue minoritaire. C'est vrai qu'on parle beaucoup sécurité, immigration dans le débat public. Comment faire exister les idées de gauche? Est-ce que déjà, il va falloir aller chercher Les jeunes, vous étiez à Marseille par exemple en tête au premier tour en 2017, 12,5% de votants seulement dans certains bureaux des quartiers nord au régional. Est-ce que les idées de gauche n'impriment plus chez les jeunes et comment aller les convaincre de retourner aux urnes dans 8 mois ?
Alors bon, d'abord, pardon, on n'aura pas le temps là, mais si vous voulez, quand on dit les idées de gauche, on est déjà mal compris parce que les gens croient que c'est les idées de Hollande, alors ça arrange pas nos affaires. Donc moi j'ai renoncé, si vous voulez, à cette étiquette générale. Je m'absoumis, j'ai un programme, regardez ce qu'il y a dedans, si ça vous convient, votez pour. Si vous ne trouvez pas ça bien, votez pas pour. Je pense que c'est la seule attitude honnête. Alors après, vous avez raison de dire que pour nous, en tout cas pour les insoumis, plus ça vote, plus on est fort. Moins ça vote dans les quartiers populaires et plus on est faible. Par conséquent, on va mener campagne contre l'abstention. Et vous avez raison de dire qu'il faut le faire, mais ça va pas être simplement d'engueuler les gens en disant « oui, il faut voter, c'est une honte », comme on a fait jusqu'à présent, ici et là, et un peu partout, en culpabilisant les gens. On va leur dire « écoutez, voter, ça sert à quelque chose. Si vous votez pour moi, Jean-Luc Mélenchon, il se passera la retraite à 60 ans, il y aura la planification, la planification écologique, on refera les institutions de la République, vous aurez une 6e République. Bon, on peut être contre, mais si on est pour, c'est pour moi qu'il faut voter. » Alors, voilà, c'est ça que je vais dire aux gens.
Puisque vous avez parlé des retraites, dernier point, oui. Vous allez sans doute croiser dans les manifs certains de vos concurrents à gauche, puisque la CGT appelle à manifester notamment le 5 octobre.
Non mais attendez, mes concurrents, ils sont à gauche et à droite, vous avez l'air de l'oublier.
Oui, mais ils ne sont pas tous dans les manifs contre la réforme des retraites à droite. Jean-Luc Mélenchon, juste pour terminer, sur la réforme des retraites, RTL a révélé ce matin qu'à même à Bercy, on comptait abandonner l'idée de la lancer avant l'élection présidentielle. Est-ce que vous appelez Emmanuel Macron à officialiser en quelque sorte ses indiscrétions, à clarifier sa position ?
Il peut pas le faire. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il a promis à l'Union européenne qu'il réformerait les retraites. Alors il fait semblant, mais il doit être. Il dit qu'il va le refaire. Bon, Monsieur Roux de Bézieux, président du MEDEF, et moi, nous lui disons, c'est pas sérieux de faire ça. C'est-à-dire de fiche une pagaille indescriptible dans le pays, en plus de ce qui existe déjà, parce que je vous annonce que s'il essaye de le faire, on va se défendre. Et on va se défendre jusqu'au bout, parce que c'est pas juste de contraindre les gens au travail, alors que après 60 ans, alors que ça abîme la santé, et qu'il y a tant de jeunes qui n'ont pas de travail, donc il est normal qu'une génération remplace l'autre, et le plus tôt est le mieux. Plus il y a de gens qui travaillent, ça coûte cher de faire les retraites. Bref, vous connaissez ces arguments. Donc je lui dis, bon, laissez tomber, attendez, il va y avoir une élection présidentielle. Ben, on va voter. S'ils veulent la retraite après 43 ans, 44 ans de cotisation à 64 ou à 67 ans, ils votent pour les autres. S'ils veulent la retraite à 60 ans, ils votent pour moi. C'est aussi simple que ça. Et ça s'appelle la démocratie. Alors après, on aura d'autres débats. Comment on fait ceci, cela, etc. Mais au moins, entendons-nous sur les termes du débat. Moi, je trouve que c'est pas sérieux de vouloir relancer une réforme pareille dans un moment comme celui qu'on vit. Mais s'il le fait, il faut pas qu'il s'attende à ce que ça se passe tranquillement. Ça ne se passera pas tranquillement. Les gens défendent leur vie dans cette affaire, que voulez-vous ?
Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été ce soir.
Merci à vous de m'avoir invité.
RTL, vous le député insoumis de Marseille, au moment donc où Emmanuel Macron, depuis le palais du Pharaon au-dessus du Vieux-Port, est en train de dévoiler son plan, dont on attend toujours le montant et les propositions claires, en train de dévoiler son plan pour guérir la deuxième ville de France. On remercie aussi Étienne Baudu qui a assuré la technique ce soir pour RTL. Une pause et dans un instant, RTL Soir continue dans les dessous de l'actu, vous le savez, toute la semaine. Il racontent leur 13 novembre, des documents nécessaires à une semaine du procès des attentats. Dans un instant, un expert de la police scientifique encore traumatisé par les sonneries de portable des victimes du Bataclan. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.
RTL. Il est 18h35.
RTL Soir, avec Julien Sellier.
Et si vous nous rejoignez à l'instant, eh bien on va refaire un point sur les grands titres de l'actualité. Marion Calais, marquée par le discours d'Emmanuel Macron en ce moment à Marseille.
Et les premières annonces chiffrées du chef de l'État, 169 millions d'euros pour la rénovation de deux hôpitaux, dont Latimone. Emmanuel Macron qui a également promis la pérennisation de deux compagnies de CRS ou encore le déploiement de caméras de vidéosurveillance contre le trafic. Le chef de l'État promet une réponse multiple et appelle les élus à rester unis. Un invité de RTL Soir il y a quelques minutes, le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, a fustigé un président en campagne. Et puis, pas de risque à prendre avec Kylian Mbappé. Le staff de l'équipe de France préfère rester prudent alors que le joueur était gêné hier à un mollet avant le prochain match des Bleus contre l'Ukraine. L'attaquant quitte le rassemblement des Bleus et ne sera pas du prochain match.
Merci Marion, bonne soirée. Le temps, Peggy?
Ce sera très ensoleillé au nord de la Loire, nuages pluvieux et orageux au sud, côté température de 20 à Cherbourg, à 27 à Mulhouse et 26 à Paris.
Merci Peggy.
RTL Soir avec Julien Cellier. Mémoire du 13 novembre.
Ils racontent leur 13 novembre toute la semaine dans les dessous de l'actu à cette heure-ci, des témoignages puissants à quelques jours seulement du procès des attentats. Ce soir, c'est Xavier Espinasse qui se confie. À l'époque, il dirigeait le service régional de l'identité judiciaire, en clair, les experts de la police scientifique. Le 13 novembre 2015, il a vécu la plus longue nuit de sa carrière, combinaison blanche sur le dos, au milieu des fantômes du Bataclan. C'est un document RTL.
J'avance et je vais au milieu de la salle. Je m'accroupis pour être peut-être à hauteur. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je m'accroupis, je regarde. Et probablement pour me protéger, je commence à compter. Je commence à les compter, les corps. Arrivé à 60, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, quoi, ça rime à quoi? Enfin, bon, c'est un petit peu comme si je me réveillais, quoi. 89 morts, 80 corps entassés, mais on n'imagine pas, quoi. Enfin, c'est Verdun, je ne sais pas, enfin... On comprend rien. Et là, j'ai commencé à me promener. Le terme n'est pas adéquat, mais enfin, à marcher dans, et aller d'un groupe de cadavres à un autre. Je voulais les humaniser. J'ai été au milieu de mes frères morts, si vous voulez. Et à peu près à ce moment-là, se passe un phénomène qui m'a marqué, alors qui me marque encore. Alors que nous étions en silence, petit à petit, tous les portables se mettent à sonner. Et en plus, à travers les vêtements, ils se mettent à éclairer. Et c'est surréaliste, ça. Il y a des sonneries de téléphone, encore aujourd'hui, que je ne peux pas entendre sans frissonner et sans dire Bataclan. La sonnerie des petits oiseaux. Celle-là, je ne peux pas. Hein. Ça me vrille les chines, ça. Et petit à petit, ils évacuent les corps vers l'Institut médico-légal. Avec l'idée de trouver des éléments permettant de les identifier. Là, les familles étaient à deux doigts d'arracher les grilles de l'IML, quoi, pour qu'on leur rende leur môme. Et je peux le comprendre. Ça a été, c'était un petit peu compliqué, mais ce qui est sous-tendu notre travail, c'est le respect et la dignité. C'est-à-dire qu'il fallait traiter chacun comme il devait l'être, en tant qu'être humain.
Document RTL, Xavier Espinasse, expert de la police scientifique avec Cindy Hubert pour RTL. Et demain, dans RTL Soir et dans vos autres rendez-vous d'infos, vous entendrez un nouveau témoignage, celui de Gaël, gueule cassée du Bataclan.
Une info vous intéresse et vous souhaitez en savoir plus?
Retrouvez les dossiers de la rédaction sur rtl.fr.
Allez, bonne fin de journée, vous écoutez RTL. On va marquer une toute petite pause les amis. Ensuite on va défaire le monde dans RTL Soir jusqu'à 19h, vous le savez, l'info sous un autre œil, différent, plus inattendu. La bande s'est installée tranquillement au studio. Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier, Arthur Asquin.
Bonsoir
les amis. Et dans un instant, un document RTL. Oui. Un jeune Afghan va nous raconter son exil jusqu'en Europe, à pied, des milliers de kilomètres, le froid, la peur. Nous allons mieux comprendre ce que vont vivre ceux qui veulent fuir les talibans dans les semaines à venir. A tout de suite sur RTL.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.